Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet. Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu a un plan pour ta vie. Même si tu traverses un long et brûlant désert, mais sache que les attaques de l'ennemi et les déserts n'amènent pas Dieu à changer d'avis. La pression sur la terre qui vient sur ta vie n'affecte pas Dieu. Voici une série de messages que nous avons commencé depuis 3 semaines. Nous parlons des promesses. Que Dieu fait des promesses à son peuple. Il fait des promesses à des individus comme toi et moi. Quand il fait des promesses, il fait aussi des serments. Il s'engage pour dire que je ne mens pas ce que j'ai dit sur ta vie, même si ça te semble trop grand, même si ça te semble lointain, mais je vais l'accomplir. C'est là que nous avons souligné que Dieu ne ment pas. Les hommes peuvent mentir, mais Dieu, lui, ne ment pas. Les hommes de Dieu de tous les temps ont compris la valeur de ce qu'on appelle promesse. Et je voudrais vous attirer votre attention sur la valeur des promesses dans votre vie. Parce qu'en vivant, nous avons tendance à conjuguer les verbes des situations que nous traversons. Mais ce matin, je voudrais faire une démarche contraire, de conjuguer les verbes de ce que Dieu dit que tu es. De conjuguer les verbes de ce que, de là où Dieu veut te conduire. Les réalités de ta vie mentent. Les réalités que tu vis ce matin mentent. Les réalités ne définissent pas ton identité, mais ton identité est définie par Dieu. Nous avons des promesses. Tu as des promesses. Ta famille a des promesses. Le psalmiste dit, ta promesse me fait vivre. Ta promesse me fait vivre. Quand je pense au plan, au projet que tu m'as annoncé, j'ai le courage de tenir encore. Les choses vont mal dans ma vie, mais j'ai tes promesses. Le psalmiste dit, tes promesses, je me réjouis de ta promesse. J'ai reçu des mauvaises nouvelles qui apportent la tristesse, mais quand je regarde ta promesse, j'ai la joie de vivre. Le psalmiste dit toujours dans le psaume 119, je médite tes promesses. Ce matin, je voudrais te dire, tu es un héritier des promesses. Quelqu'un peut dire, je suis un héritier des promesses. Je suis un héritier des promesses de Dieu. Il semble qu'au Québec, les élections sont en l'air. Et les candidats aux élections vont faire beaucoup de promesses. Depuis que je suis au Québec, on me parle toujours des ponts, d'échanger à Acadie. On va les casser, on va élargir, mais ça fait 20 ans que je suis là. Mais je vous parle de Dieu qui fait des promesses et qui accomplit ses promesses. Vous êtes héritiers et héritières des promesses de Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé, garde ta promesse, elle s'accomplira. Garde ta promesse, tu ne mourras pas sans voir les fruits de la promesse de Dieu. Ta vie va changer, elle va basculer parce que Dieu t'a donné des promesses. Et je vous rappelle que tu es héritier, héritière de la promesse. Ce matin, nous parlerons des combats des héritiers des promesses de Dieu. Des combats. Il y a des combats à livrer. Et c'est de ces combats que nous allons parler. Je voudrais prendre 2 textes des Écritures. La première lecture, nous la faisons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 29. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant de voir le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait, ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, il bénit Dieu et dit « Maintenant, maintenant ». Quelqu'un dit « Maintenant ». Il y a des moments dans ta vie où tu vas dire « Maintenant ». Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car ta parole est accomplie. Notre deuxième lecture, Romains chapitre 4, au verset 18 jusqu'au verset 22, je lis dans la parole vivante. Là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans la foi. S'appuyant sur la parole divine, la promesse divine, il ne s'y combat pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. Quelqu'un peut dire amen. Étant pleinement persuadé que Dieu est capable, quelqu'un dit, Dieu est capable. Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. Voici deux textes. Combien riche d'enseignements ce matin qui tourne autour des promesses. Nous avons dit depuis le début que la promesse est une révélation. La promesse est la lumière que Dieu nous apporte. Il la communique par les Écritures. Il la communique au moyen de notre conscience. Nous allons l'étudier mercredi. Il nous la communique dans une vision, il la communique par la parole des connaissances. Dieu nous accorde une révélation. Cette révélation nous montre ce que Dieu prépare, qui va prendre place dans notre vie, qui va prendre place dans notre santé, une promesse de guérison, des choses qui vont prendre place pour notre mariage, des choses qui vont prendre place pour notre emploi, des choses qui vont prendre place dans nos finances. La promesse de Dieu touche à tous les domaines de la vie, car Dieu s'intéresse à ta vie et Dieu veut que tu sois bien. La promesse ouvre nos yeux sur les programmes de Dieu. Il y a mon programme, il y a les programmes de mes parents, il y a les programmes du gouvernement. Mais il y a les programmes du gouvernement céleste. Ces programmes ne se trompent pas. La promesse m'indique où est-ce que Dieu veut me conduire. Et Dieu crée des bifurcations. Quelqu'un dit bifurcation. Dieu crée des voies de détour pour me conduire à entrer dans son plan divin. C'est cela que nous avons appelé promesse. Et le psalmiste dit avec raison. Ta promesse me fait vivre parce que j'ai dit ma vie est un échec, ma vie est brisée. Mais quand je me souviens que j'ai dans mon portefeuille des promesses de Dieu, je préfère m'asseoir et attendre les promesses. Quand je sais que ma vie est un échec, mais Dieu m'a révélé que je porterai plus de fruits, Dieu m'a révélé qu'il va m'élever, même si je n'ai pas d'emploi, j'ai la joie de vivre, je sais que je serai élevé. On n'élève pas quelqu'un sans emploi. C'est que mon chômage devra finir un jour. Quand je me réveille, je vois toujours, je rêve toujours que j'ai des enfants. Pourtant, je suis célibataire. Mais mon cœur se réjouit et je commence à marcher dans la maison en touchant aux enfants, en les appelant. Venez, nous allons voir la télévision. On dit, tu n'es pas marié, mais je salue ce que, dans mon esprit ce que Dieu me montre. Nous avons dit la semaine dernière que Dieu fait des promesses par grâce. Nous avons dit que Dieu fait les promesses en réponse aux prières que nous faisons monter vers lui. Disons-lui des prières dans un esprit d'écoute, dans un esprit de dialogue, où nous lui parlons et lui nous parle. Nous avons dit que Dieu fait des promesses parce qu'il y a eu un geste provocateur, une offrande provocateur, un engagement provocateur, un sacrifice provocateur. Et quand nous le faisons, le cœur de Dieu est touché et nous libérons, nous délions la langue de Dieu pour nous faire une promesse. Quelqu'un dit amen. Avant d'entrer avec vous dans le vif du sujet, je voudrais relever deux leçons qui apparaissent à l'œil nu dans ce texte, deux lectures que nous venons de faire. La première vérité, c'est que Dieu fait des promesses, des choses impossibles à l'homme. Amen. Vous savez, je peux promettre à quelqu'un 20 dollars, 30 dollars, mais lorsque nous regardons les deux lectures que nous venons de faire, Dieu va au CHSLD. Vous connaissez les maisons des vieillards. Il trouve un vieillard, un homme de 100 ans. Il ne marche pas. Il est assis sur une chaise roulante. On le nourrit. Et Dieu dit, monsieur, ta femme, où est-ce qu'elle est? J'ai besoin de vous parler. De quoi? Amenez ma femme. On amène la femme aussi sur la chaise. Et Dieu dit, je vais vous donner un enfant. On doit partir à rire. Une promesse, une déclaration qui n'a pas de sens. Et ce n'est pas au CHSLD qu'on fait des promesses de maternité. Dieu promet les choses impossibles à ton portefeuille. Promet des choses impossibles à la science. Dieu promet des choses impossibles à ta santé. Dieu vient au temple de Jérusalem. Il trouve encore un centenaire. Un homme de presque 60 ans, 50 ans quelqu'un, il lui dit, écoute monsieur, toi tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre longtemps jusqu'à ce que tu portes le Messie et tu le présentes à la bénédiction. Monsieur regarde son âge, il dit, mais c'est quoi ça qu'on m'a fait? D'abord, un sacrificateur, il quitte les fonctions à 50 ans. Il dit, c'est lui qui a donné les fonctions, les ordres pour la sacrificature, c'est moi. Mais toi, tu restes en fonction. Je vais reculer l'échéance de la mort sur ta vie. Tu vas vivre longtemps. Quelqu'un dit, je vivrai longtemps. N'est-ce pas la même chose qu'il dit à Ézéchias, malade à la mort. Jamais un prophète n'est venu annoncer la mort. Les prophètes annoncent la bonne nouvelle. Mais lorsque Ésaïe arrive, il dit, ainsi parle l'Éternel, prépare ta maison, tu vas mourir. Mais cet homme va dire une prière où il rappelle à Dieu, regarde ce que je fais pour Israël. Et Dieu délie sa langue. Faites quelque chose pour délier la langue de Dieu. Dieu va lui dire, tu ne mourras pas, je vais déplacer les bornes de la mort. Mort, repousse-toi pendant 15 ans, tu ne les touches pas, la fièvre ne les touche pas, la grippe ne les touche pas, une blessure ne les touche pas, parce que je lui ai fait ma promesse. Dieu fait des promesses impossibles quand nous les regardons avec nos yeux, avec les réalités de notre vie, c'est une bêtise. Il vit des rêves. Tu ne rêves pas ce que Dieu a dit, il va le faire. Amen. Tu ne rêves pas. Quand Dieu donne des révélations, il les donne en grand. Dieu ne te promet pas 20 dollars, mais Dieu te promet des millions. Dieu ne te promet pas le chômage, il te promet un bel emploi. Dieu ne te promet pas de couler, il te promet de t'élever. Dieu ne te promet pas de tomber, il promet de te garder debout. Ce que la science ne peut pas faire, Dieu va le faire pour toi. Dieu va au-delà des limites de la science. Il va au-delà des limites des banques. Il va au-delà de toutes limites. Un homme attaché à Dieu est un homme qui marche dans les dimensions de Dieu. Ce qu'il y a comme deuxième leçon qui apparaît ici, Dieu dit à Abraham, il est au soir de sa vie. Il dit à Abraham, je veux te bénir. tu toucheras l'abondance que tu n'as jamais touchée dans ta vie. Quelqu'un dit ce mot-là. Tu toucheras davantage. Et là où je voudrais vous amener, c'est... Il vient voir Siméon, il lui dit, tu vas vivre longtemps. C'est que les promesses changent notre perspective de la vie. Les hommes que nous venons de dire, ils sont au mur. Ils vont mourir bientôt. Un vieillard ne fait jamais des projets d'avenir. Il regarde toujours dans le passé. Allez, les préposés aux bénéficiaires qui travaillent avec des vieillards savent. Il va vous parler des choses quand il avait 20 ans alors qu'il a 90 ans. Ils vivent dans le passé. Mais Dieu dit, parce que vous avez mes promesses, faites des projets d'avenir. Les promesses nous amènent à regarder vers l'avenir avec le regard de Dieu. Je voudrais vous mettre au défi ce matin de regarder grand, car Dieu fait des promesses, des choses impossibles. Ne laisse pas tomber le projet que tu as en disant, écoute, je ne vois pas, je suis au chômage, mais Dieu montre que j'ai acheté un triplex. Comment je vais l'acheter? Ça, ce sont les calculs de Dieu. Ça ne te concerne pas. Il y a plusieurs qui vivent dans le passé. Il a 40 ans, mais il vit dans le passé. Oh, quand nous étions. Mais je voudrais ce matin vous dire, de dire, quand je deviens, voici ce que je vais devenir. Je voudrais des hommes qui communiquent la foi à leurs femmes. Chérie, nous allons nous étendre. Chérie, nous deviendrons grands dans ce pays. Chérie, Dieu va faire. Je voudrais situer juste une grande vérité de vous dire, la promesse est la clé de l'intervention divine. La promesse est la clé de la bénédiction de Dieu. Je vous disais tout à l'heure que la promesse est la parole de révélation. C'est que la promesse est comme un rayon de lumière qui entre dans une chambre noire. Nous avons chacun de nous une chambre noire. Nous avons une chambre noire dans les finances, une chambre noire dans notre santé physique. Quand nous pensons à notre santé, j'ai vu mon cardiologue le vendredi. Je ne sais pas si c'est le vendredi que je l'ai vu, j'expliquais quand nous sortions de là, je dis, maman, vous savez, quand on entre dans les bureaux du médecin, on ne sait pas ce qu'il va dire. C'est quand on y sort, quand je le vois, il regarde tous les bilans, il me dit, Monsieur Kabuya, mais tu as le cœur comme un jeune de 20 ans. J'ai dit, waouh, oh, je peux sauter. Qu'est-ce que c'est bon ça? Quand j'ai le cœur comme un jeune homme de 20 ans, c'est que j'ai encore 60 ans à vivre pour arriver à 100 ans. Et je bénis le Seigneur. C'est que Dieu n'est pas lié par notre situation pour nous faire des promesses. Il vient trouver Abraham, un homme qui traverse un très long désert de sa vie. Un long désert. Désert de maternité. Il n'a pas d'enfant. Il a pleuré. Il a consulté des médecins de son temps. Des gynécologues, il n'a pas vu. Médecine traditionnelle, rien. Et Dieu vient dans la vie de cet homme. Il se révèle à lui. Il lui dit, je vais te donner un enfant. C'est que la promesse de Dieu est un point tournant de ton histoire. Dieu dit que ta vie ne finirait pas comme tu l'as commencé. Que ta vie ne s'arrêterait pas là. J'ai des choses nouvelles à pouvoir faire. Il en est de même de Siméon, un vieillard, nous avons dit, un centenaire, un homme qui est à la mort, n'ayant aucun projet, il est fini. Mais la promesse de Dieu lui donne l'envie de vivre et de bâtir des choses nouvelles. Mais ce matin, ma préoccupation, c'est de vous dire que les promesses, ceux qui ont les promesses sont les héritiers des promesses. Quand tu entends quelqu'un se plaindre, dites-lui, n'es-tu pas l'héritier des promesses de Dieu? Je vais relever 4 domaines de combat. Quand tu as des promesses, tous ceux qui ont des promesses de Dieu, ils entrent dans un combat et en voici 4 territoires de combat. Le premier territoire de combat, c'est le territoire de la raison. Dieu a créé un homme avec la faculté de juger. C'est la capacité d'analyser, la capacité de comprendre et la capacité de tirer des conclusions. La promesse n'annule pas la faculté de penser et de comprendre. Lorsque Dieu vient trouver Abraham, il lui dit une parole que je vais vous lire dans les livres de Genèse au chapitre 17. Ensuite, Dieu dit à Abraham, « N'appelle plus ta femme Sarai. À partir de maintenant, son nom sera Sarah. Je la bénirai et par elle, je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai, elle deviendra la mère de plusieurs peuples et des rois naîtront d'elle. » Quelqu'un dit « Amen ». Abraham se met à genoux, le front contre le sol, il s'est mis à rire. En effet, il s'est dit, « Moi, j'ai 100 ans. Est-ce que je peux devenir père ? Sarah a 90 ans. Est-ce qu'elle peut avoir un enfant ? » En effet, il s'est dit, « Moi, j'ai 100 ans. Est-ce que je peux devenir père ? Et Sarah, 90 ans, est-ce qu'elle peut devenir, elle peut avoir un enfant ? » En effet, il s'est dit, « Moi, j'ai 100 ans. Est-ce que je peux devenir père ? Et Sarah, à 90 ans, est-ce qu'elle peut devenir, avoir un enfant ?» Quelqu'un dit « Amen ». Voici des questions pertinentes, des questions normales que soulève la promesse. Comment cela est-il possible que Dieu me promette des millions alors que je n'ai pas d'emploi? Comment Dieu peut me promettre d'avoir des enfants alors que je ne suis pas marié? Comment Dieu peut me promettre d'avoir une maison de location alors que j'ai un mauvais crédit? J'ai perdu même l'emploi. La promesse vient à nous et soulève des questions pertinentes parce que nous sommes des êtres pensants. Et des questions nous amènent dans un doute. Et les doutes nous poussent à jeter la promesse. Et plusieurs ont jeté leur promesse à cause de doutes. Ils ont vu l'impossibilité de ce que Dieu a promis qu'il va accomplir. Ils se sont dit, mais ça n'a pas de sens. Je ne vois pas comment cela est possible. Je veux que nous entrions dans la peau d'Abraham. Il est un être pensant, il dit, mais j'ai 100 ans. Je me suis marié quand j'avais 20 ans, quand j'avais 18 ans, quand j'avais 14 ans. J'ai fait tout ce qu'il fallait d'avoir un enfant, je ne l'ai pas eu. Mais de quelle prophétie on me parle? Arrête-moi ça. Combien se sont refermés sur elles-mêmes, en disant, ça n'a pas de sens. C'est ce que Abraham dit, que cette promesse n'a pas de sens. La Bible même dit, il a ri. D'abord, il se prosterne, il adore Dieu. Il dit, tu es le grand roi, tu es bon, mais ce que tu me dis n'a pas de sens. Je ne vois pas comment cela est possible. Ce qui est assez étonnant dans ces récits, c'est que Abraham rentre en lui-même. Dieu a eu pas mal de difficultés d'asseoir la promesse dans le cœur d'Abraham. Parce que quand il se sépare avec Lot, Abraham pleure. Son cœur est brisé. Il avait fait des calculs sur Lot. Lot s'en va. Il fait les calculs sur Eliezer de Damas. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que Dieu va utiliser même un langage virtuel. Il vient réveiller Abraham la nuit. Il dit, viens avec moi. Le vieillard sort. Il dit, lève les yeux et regarde. Il dit, j'ai des vertiges. Il dit, non, je vais te tenir par les dos. Tu ne vas pas tomber. Il me lève les yeux. Abraham regarde, il dit, compte les étoiles. Il dit, je ne peux pas. C'est ce que je veux te donner. Ta descendance sera plus nombreuse que cela. Il dit, ah Seigneur, Dieu va prendre Abraham. Allons nous promener sur la plage. Ils vont jusqu'à la plage. Seigneur, il fait froid, c'est trop tôt matin. Il dit, viens avec moi. Il arrive, il les regarde. Il dit, comptez-moi les sables. Il dit, je ne peux pas compter, Seigneur. Tu sais, aucun homme n'a compté ça. Il n'y a que toi, Dieu, qui peut compter. Il dit, mais n'est-ce pas moi, Dieu, qui te dit que je vais changer ton histoire? Frères et sœurs, la Bible nous dit que Abraham, il n'a plus vacillé. Abraham a fait appel à la foi. La promesse fait appel à la foi. Il y a des choses pour lesquelles nous travaillons avec notre intelligence. Mais la promesse, elle sort du domaine de la logique humaine, elle entre dans la logique de Dieu. Et la logique de Dieu, c'est la logique de la foi. Quelqu'un dit la foi. La foi. Dieu révèle des choses qui n'ont pas de sens. Je vais vous raconter beaucoup d'histoires ce matin. Vous savez, j'ai grandi dans les églises presbytériennes. Je suis ordonné pasteur presbytérien. Vers les années 94, un grand réveil touche la ville de Kinshasa. Je me convertis. C'est-à-dire, je prends une décision ferme de comprendre ce que c'est que l'Évangile, ce que c'est que la foi, qu'est-ce que c'est que l'œuvre de la croix. Dans les jours qui suivent, pendant un an, j'ai fait des rêves bizarres. Je vois dans les rêves toujours quelqu'un qui vient me prendre. Nous allons avec lui. Cet homme a beaucoup de bétail. Et puis, il me dit, garde-moi ça. Je ne comprends rien. Je me réveille le matin, tout bonnement. Et puis, je fais le même rêve. Je fais le même rêve. Je vois mon conducteur spirituel. Je lui en parle. Il dit, ah, peut-être que Dieu t'appelle. Et je me vois sortir par le port de Beach, qu'on appelle Ngobila, au bord du fleuve Congo. J'entre, je vois voyager dans les pays d'Afrique en train de parler aux gens et de faire des groupes de gens qu'on appelait église. Je vous parle des années 74. Un rêve qui n'a pas de sens, qui a duré un an. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas fils du pasteur, je ne suis pas diacre, je ne suis pas ancien. Je ne suis rien qu'un petit chrétien converti qui a joué avec d'autres jeunes dans les mouvements de jeunesse pour Christ. Cela s'est arrêté là. 10 ans plus tard, disons que 3-4 ans plus tard, je me retrouve en formation théologique. Mais je suis l'homme qui a bien ri des pasteurs dans la vie. Je dis, mais quel travail il fait? Il dit qu'il est pasteur. Est-ce qu'être pasteur est un travail? Un pasteur ne peut pas entrer dans mon créneau. Je le voyais avec de gros souliers, un peu mal habillé. Je dis, mais regarde comment ils sont ces gens-là. Comment quelqu'un peut donner même sa fille à quelqu'un qu'il est pasteur? Mais je me retrouve en théologie. Je me retrouve en voyage à Lagos. Vous connaissez l'histoire, une femme me dit, tu es missionnaire au Canada. Mais je n'ai pas de poste d'emploi. J'ai juste un diplôme de théologie. Je suis allé même en théologie sans comprendre beaucoup. Je me dis, je vais connaître la Bible. Juste ça, je vais connaître la Bible. Je reviens. Je me retrouve en Europe. Je commence encore à avoir des mêmes rêves. À l'époque des télé-évangélistes, je suis avec de tels Osborne, je suis avec un tel. Je ne savais jamais que je serrerais la main à tel Osborne. Un rêve qui n'a pas de sens. Je fais des campagnes avec, je n'ai pas de sens. Je me retrouve au Canada. Mais laissez-moi vous dire, comprendre des vérités. Au moment où nous vous parlons, Trois-Rivières est en train de s'ouvrir à la CEP. Un jeune homme que vous avez vu ici, Sido et Cathy, je les ai appelés. J'ai dit, vous terminez vos études, oui, nous rentrons à Montréal. J'ai dit, non, vous ne rentrez pas à Montréal. Nous allons bâtir une église à Trois-Rivières. Au moment où nous vous parlons, Togo est en train de s'ouvrir à la CEP. Pendant que je me trouvais au Bénin, en conférence, Dieu avait déplacé un évangéliste togolais, déstabilisé. Il m'a écouté, il a avalé la vision. Il dit, la vision de cette église, elle ne reste pas au Bénin. Ce n'est pas un Béninois qui vient au Togo. Nous avons une cellule qui vient de démarrer à Lomé. Ce week-end, en plus des églises du Congo, on vient d'ouvrir une... Ce week-end ici, on vient d'ouvrir une église à Miabi, à Dibungi. Ce week-end, j'ai des missionnaires qui sont encore sur le terrain. On a ouvert l'église à Kabinda. C'est que le nom CEP est devenu comme une traînée de poudre parmi les nations. Mais il y a 35 ans derrière, pour moi, je voyais des rêves qui n'avaient pas un sens. Mais ces rêves-là ont un sens aujourd'hui. Il y a dans ta vie des choses que tu rêves, dont tu dis ça n'a pas un sens. Mais tu auras un sens après. Amen. 35 ans derrière, j'étais un fou dans mon lit. Mais aujourd'hui, c'est un mouvement d'église. Des choses que Dieu te montre, que tu repousses, que tu rejettes. Quand tu regardes la réalité, tu dis, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas fils du pasteur. Je ne suis même pas dans les créneaux des gens dans les consistoires qui peuvent penser à moi. Mais Dieu pense à toi. Dieu n'a pas attendu. Cette main, je l'ai serrée à Théo Osborne. Je me suis assis avec Théo Osborne. Il a prêché le matin, j'ai prêché le soir. Je connais la plupart des grands prédicateurs d'influence, d'impact. Je prêche avec eux. Quand tu regardes la vision, la promesse de Dieu, elle est un non-sens aujourd'hui. Tu vis dans un long désert, mais tu te retrouves toujours avec Harper, vous mangez avec Jean Chrétien, vous mangez avec... Vous dites, mais ça n'a pas de sens. Je suis ici, je n'ai aucun titre, je n'ai même pas les papiers d'établissement dans le pays. Mais cela ne dit rien aux yeux de Dieu. Le rêve est le rêve de Dieu sur ta vie. Ce qui importe, c'est le rêve de Dieu. Et Dieu t'amènera à coup sûr à entrer dans son rêve. 35 ans après, j'ai des centaines de pasteurs sous mon ministère. Je suis directeur de mission. Et les églises naissent. Naissent et renaissent encore. Je bénis le Seigneur. Amen. La Bible dit que Abraham n'a pas eu de doute à la promesse. Il dit que Dieu est capable. Je voudrais entendre des voix. Dieu est capable. Il n'y a pas une promesse au-dessus de Dieu. Tout ce que Dieu promet de faire, il va le faire. Dieu va te restaurer. Dieu va te relever. Dieu va te donner un mari. Dieu va te donner des enfants. Dieu va ouvrir des portes. Dieu va te bénir. Dieu agira dans ta vie. Et Dieu n'a pas besoin de la main d'un homme, parce qu'il est Dieu. Le texte de Genèse chapitre 17, Dieu dit à Abraham, il commence d'abord, avant de faire la promesse, il dit à Abraham, je vais te dire mon nom. Il dit, mais je connais ton nom, tu es l'Éternel. Il dit, non, tu ne connais pas tout de moi. J'ai un autre nom. Il dit, quel est l'autre nom que tu as? Il dit, je m'appelle El Shaddai, le Dieu capable. Et ensuite, il donne la promesse. La promesse est attachée au Dieu El Shaddai. La promesse relève du nom de El Shaddai. Le Dieu capable de te sortir de ton village. Le Dieu capable d'ouvrir des portes. Le Dieu capable de placer un mari dans ta vie. Le Dieu capable de recréer les cellules. Le Dieu capable d'étonner les médecins. Il te voit hier. Quand il te revoit, il dit, je ne comprends rien. J'étais un homme mort, un an derrière, mort. Mort. Les enfants m'ont vu. Il m'a vu, il m'a dit, ton testament. Le médecin est revenu me voir le lendemain. Il m'a dit, monsieur Kabouya, je ne comprends rien. On m'a mis sous les coumadins. Aller à l'hôpital tous les jours, prélever le sang, ceci, cela. Je sors de l'hôpital et je dis, j'ai des promesses. J'ai des promesses. J'ai des promesses. Ils m'ont fait des coumadins là deux fois. Je dis, je ne reviendrai pas ici parce que j'ai des promesses. On ne m'a jamais donné de rendez-vous. Je ne prends aucun médicament du cœur. Je me porte bien. Je me porte bien. Le deuxième terrain de combat, il s'appelle le temps. Il y a un ennemi de tous ceux qui ont des promesses. Il s'appelle le temps. Si tu as triomphé du premier ennemi, que nous avons appelé tout simplement la logique, je suis trop intelligent. Je tourne des promesses dans tous les sens. Ça va entrer par où? La guérison, elle entre par où? On me met de l'huile, comment ça va entrer dedans? Mais moi, je ne suis pas dans la logique de Dieu. Moi, je crois, je reçois la promesse, je m'éteins. Et Dieu se débrouille avec. Deuxième ennemi s'appelle le temps. Le temps, notre vie est liée au facteur de temps. Nous sommes des êtres temporels. Nous vivons dans un monde de temps. Les temps, ce sont les minutes, les secondes, les heures qui passent, et c'est les jours, c'est la semaine, ce sont des années. Nous réfléchissons en termes de temps. Et dans la société que nous vivons, le temps exerce une grosse pression sur notre vie. Quand une sœur arrive à l'âge de 25 ans, on commence à lui poser la question. Tu n'es pas encore mariée. Il y en a même qui fuient l'église tellement que la pression est sur leur vie. Quand elle est mariée ou ils sont mariés, un an après, la deuxième année, les bébés, et c'est quand? Il y a la pression qui vient sur notre vie. Comprends, Abraham. Il a 75 ans. Quand Dieu est venu le voir, il lui a dit, monsieur, il dit, je voudrais te dire mon identité. Il dit, mais quelle identité encore? Tu m'avais dit que tu t'appelles l'Éternel. Dieu lui dit, non, j'ai un autre nom. Et ce nom-là est lié à des promesses. Il dit, mais quel est ce nom-là? Il dit, je m'appelle le Dieu Tout-Puissant. Abraham dit, amen! Il dit, ta femme va avoir un enfant. Abraham dit, mais là, il déconne. Je crois que là, il perd la tête un peu. Est-ce qu'il connaît mon âge? Parce qu'Abraham va dire à Dieu, est-ce que tu connais mon âge? Mais des promesses comme ça, on les fait aux jeunes de 20 ans, de 25 ans, je comprendrai. Mais moi, je n'ai plus d'envie. Ma femme, la même chose. On est comme on est là. On est comme frères et sœurs ensemble. Mais comment je peux avoir un enfant? Abraham dit, un peu de bénéfice de doute. Il attend 10 ans après. Il dit, non. C'est Sarah qui lui dit, est-ce que tu ne vois pas que tu t'es trompé? Il faut qu'on réfléchisse autrement. Je pense que tu interprétais les promesses, la prophétie, c'est un peu compliqué. Je crois que Dieu parlerait probablement d'Agar. Elle est jeune, elle a la chaleur, elle est bien là. Regarde là, je vais la préparer. Il dit, mais c'est notre bonne, je vais la préparer. Vous savez, les mamans savent préparer les choses. Il dit, tu sais préparer les pâtés, tu sais préparer les je ne sais pas quoi. Mais non, ça relève de ma sagesse, je vais te la donner. Et puis, la pression a fait que Isaac est né. Combien d'Isaac sont nés? Ismaël. Combien d'Ismaël sont nés à cause de la pression? Vous savez, je suis entré dans ce pays avec la vision des missions. La CEP de Mar, la première année, nous avions déjà préparé le terrain de Floride avec des sœurs qui sortaient de la retraite. Il a fallu un an plus tard qu'on comprenne que ce n'est pas la direction. Nous nous sommes investis à Toronto. Celui qui sera notre pasteur à Trois-Rivières, il vient de ce qu'on a appelé CEP Toronto. C'est les pierres de construction de cette œuvre. Encore une fois, ce n'était pas le temps de Dieu. Regardez, quand le temps de Dieu arrive, tout simplement, vous savez, demain, lundi, souvent le lundi et le mardi, je suis dans la joie immense parce que je suis assis dans les bureaux des directeurs. Je prends des nouvelles des missions. Des pasteurs appellent, je les appelle. Comment a été le culte aujourd'hui? Ok, c'est bon. Et toi, des Centrafric, est-ce que tu as toutes les nouvelles des églises? Oui, donnez-moi les rapports. Oh, j'aime ça, à voir ce que Dieu fait dans les champs des missions, et mon cœur est excité. Amen. Mais 10 ans plus tard, Abraham, Sarah ne voit rien, il dit non, on fait un autre projet. 15 ans plus tard, il n'y a rien. 20 ans plus tard, il n'y a rien. 24 ans plus tard, il n'y a rien. Je voudrais vous dire que les promesses sont liées à un autre phénomène qu'on appelle l'espérance. La promesse et attendre sont comme une pièce de monnaie. D'un côté, il y a la promesse, De l'autre côté, il y a l'espérance. Je vous ai dit la semaine dernière, que, dimanche dernier, il y a deux types de promesses dans la Bible. Il y a des promesses fermées, ce sont les promesses datées, où Dieu donne des dates. Mais il y a des promesses, la plupart des promesses sont des promesses ouvertes. Ouvertes. Dieu dit à Abraham, dans 400 ans, ta descendance va sortir du pays. Ça, c'est une promesse fermée. Mais la promesse ouverte, c'est tout simplement, il dit, je te bénirai, tu vas te marier. Mais il ne te dit pas la date. L'attente n'est pas un temps mort. Mais qu'est-ce qu'on fait dans les temps d'attente? La première chose qui apparaît dans les textes que nous avons lus dans le livre des Actes, c'est d'abord reconnaître la grandeur de Dieu. Reconnaître que Dieu est grand, ce qu'il dit, il l'accomplit. Cela voudrait dire, ne jetez pas la promesse, ne la jetez pas, ne la jetez pas. Accueille la promesse, mais ne la jette pas. Même si tu ne comprends pas son sens, dis tout simplement, amen, Dieu est capable. Quelqu'un dit, Dieu est capable. Dieu est capable. La promesse me dépasse, mais le Dieu que je sers est au-dessus de mes limites pour accomplir la promesse. Deuxième, dans les temps d'attente, on nous dit que Abraham s'est attaché à Dieu par un amour sans intérêt. Qu'est-ce que j'entends par un amour sans intérêt? Vous savez, l'amour avec intérêt, c'est de dire, il y a les gens qui se collent à toi parce que tu es cousin d'un ministre dans ton pays. Ils se collent comme amis pour dire, est-ce qu'il ne peut pas faire ça pour moi? Ils se collent à toi parce que tu vas lui rendre service. Mais attaché à Dieu sans intérêt voudrait dire, je l'aime parce qu'il est mon créateur. Je l'aime parce qu'il est mon sauveur. Je l'aime parce qu'il est mon rédempteur. Je l'aime parce qu'il est mon refuge. Tous ceux qui sont attachés à Dieu par intérêt, ils finissent à un moment ou à un autre délâchés. Mais les gens qui sont attachés à Dieu par un amour désintéressé, ce sont ceux qui disent, comme l'apôtre Paul, tout simplement de dire, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la persécution? Est-ce les prières non exaucées? Est-ce le mari? Est-ce la femme? Est-ce l'emploi? Est-ce la maladie? Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ce sont les chrétiens qui gardent la flamme olympique. Ils gardent la flamme. Dans toutes les situations, il n'a pas l'argent, il dit béni soit l'Éternel. Il a l'argent, il balance les mains. Il n'a pas, il est malade, il dit transportez-moi à l'hôpital, l'église me manque. Troisième chose, quand on est dans la période d'attente, c'est le verbe cramponner. Quand tu as des promesses, c'est que tu changes de chaussures. Tu portes des chaussures avec des dents. C'est ça, cramponner. Vous savez, les gens qui grimpent sur des montagnes, comment vous les appelez? Ceux qui escaladent là. Les alpinistes, ils ont des souliers comme ça. La promesse. Oh, okay. Malade, tu auras l'argent, tu n'as rien. Tu auras l'argent, tu n'as rien. Tu tiens ta promesse, quelqu'un dit amen. Amen. Tu médites la promesse. Tu proclames la promesse. Tu t'attaches à une famille des enfants de Dieu. De manière que lorsque tu es abattu, découragé, tu as des bras qui te servent d'appui pour avancer. Pourquoi s'attacher au peuple de Dieu? C'est pour avoir les carburants dans ton réservoir. Quand tout est à plat, la parole de Dieu te redonne un nouveau départ. Amen. Amen. Troisième terrain de combat, s'appelle réconcilier la promesse et la réalité. Il y a une fossé énorme entre la promesse et la réalité. Abraham n'a pas d'enfant, Dieu lui dit, « Oh, père des multitudes !» Je dis, « Mais je n'ai pas d'enfant, moi. Je n'ai pas d'enfant. » La promesse est une projection. Dieu te donne une photo de ce que tu vas devenir. Mais tu n'es pas comme ça. C'est comme si tu as fait un rêve dans la nuit, tu as beaucoup mangé. Tu étais au Sheraton, tu vois, tu manges bien, mais tu te réveilles le matin, tu as faim. Le frigo est vide. Heureusement que le frigo n'est jamais vide ici. Réconcilier, c'est le domaine le plus dur, le domaine des combats intenses. Abraham se réveille, il dit à Sarah, nous avons des enfants. Abraham dit, mon mari perd la tête. On n'a pas d'enfants. Est-ce qu'il fait la dépression? Il dit, non, je ne fais pas la dépression. J'ai vu des enfants, j'ai vu un enfant courir ici dans la maison. Il dit, non, ce sont tes idées. Vous savez combien de visions de Dieu, combien de projets de Dieu, combien de promesses de Dieu tu y as jeté en disant, ce sont mes idées. Alors que Dieu parle. Quelqu'un dit, Dieu parle. Dieu parle. C'est que la réalité de notre vie, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui, je n'ai pas 20 dollars. J'ai fait l'atout. Je n'ai pas d'emploi. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas d'amis. J'ai perdu la maison. Je n'ai pas payé mes factures. Mais je voudrais vous amener à quelque chose que je vous demande de tirer bien les oreilles. Notre condition d'être pensant fait que nous conjuguons des verbes en reflet avec notre réalité. Nous parlons de notre réalité. Mais Dieu nous demande de changer de langage et de parler de choses qui sont à venir comme étant des choses présentes. J'ai reçu pendant mon séjour en Israël un texte de Kenneth Copeland. Je voudrais vous lire. Ne dites pas les choses telles qu'elles sont. La vie fait que je n'ai pas d'argent, je souffre dans ce pays, je n'ai pas de séjour dans ce pays, je suis célibataire, ma femme me fait tourner la tête, mon mari est tête dure, les enfants ont quitté la maison. Dieu dit, ne parle pas les choses ainsi, parlez un langage de foi. Le langage de foi nous pousse à confesser de verbes, des choses que Dieu prépare et nous les saisissons par la foi, nous les amenons dans notre vie. Écoutez ce que l'auteur dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange des fruits. Les paroles sont d'une importance capitale, dit Kenneth. Nous, croyants, nous devons apprendre à bien les utiliser. Nous devons les faire travailler en notre faveur comme Dieu lui-même le fait. La Bible nous dit qu'il se sert de paroles pour appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4 que nous venons de lire. La plupart d'entre nous ne savons pas du tout comment faire une telle chose. Toute notre vie, nous avons dit les choses telles qu'elles étaient. Nous avons constamment utilisé notre bouche pour rendre compte du triste état de la situation autour de nous. C'est pour cela que la seule pensée d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient nous semble un peu folle. Je vais commenter. Vous voulez dire que je suis un insensé, dire que je suis guéri lorsque je me sens malade, ou je suis prospère quand je suis sans sous. Pour moi, cela ressemble à un mensonge. Absolument pas. Il y a une énorme différence entre mentir et parler par la foi. Un mensonge vise à tromper quelqu'un, à lui faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Mais parler par la foi consiste simplement à prononcer la parole, les paroles qui sont en accord avec la Bible, plus qu'avec les circonstances qui nous entourent. C'est laisser parler l'esprit au lieu de laisser parler l'intelligence. Je voudrais commenter cette phrase qui vient à pic dans ce que nous venons de dire. Je disais au début du message, nous sommes des êtres pensants. Nous voyons, nous sentons, nous touchons des choses autour de nous. Toute notre vie, nous avons parlé par notre intelligence. Ah, je vois Pasteur Omer. Ah, je vois la sœur Béa. Oh, je vois Bishop devant moi. Oh, je vois la présidente des dames devant moi. J'ai dit ce que je vois. Et cela, nous allons aussi dans ce que nous vivons. Je suis malade, je n'ai pas d'argent. La vie est dure dans ce pays. Tout ce que je touche ne réussit pas. Tout ce que je touche échoue. Ça, c'est parler selon notre intelligence. Mais maintenant, selon Dieu, il nous donne un sixième sens. Le sixième sens s'appelle la foi. Qu'il y a un langage de foi où je salue, où je dis des choses que je ne vois pas. Vous avez manqué l'occasion de dire amen. Des choses que je ne touche pas, je les appelle par mon esprit. Je les déclare. Je suis en bonne santé. Ça, je parle par la foi. Je parle le langage de foi. Et Abraham a développé ce langage-là. Abraham est cet homme qui, à partir du moment où il a eu une vision claire, Dieu lui a parlé et Dieu lui a montré. Dès qu'il a vu, il dit, « Seigneur, je me repens, j'ai compris. » Il revient à la maison, il s'assoit, il appelle un enfant. Il dit, « Isaac !» Et finalement, vient Sarah. « Tu m'as appelé ?» Il dit, « Non, j'appelle les garçons. » Il dit, « Quel garçon ?» Lui dit, « Je le vois dans mon esprit. » La femme dit, « Mon mari a la dépression maintenant. » Il dit, « Bouge, enlève ses affaires, l'enfant va tomber. » Il dit, « Mais de quel enfant tu parles dans la maison ?» Il se réveille la nuit, il va dans une chambre d'à côté. Sarah lui demande, « Mais où tu étais ?»« Non, j'ai été voir l'enfant s'il a bien dormi. » Il dit, « Alors, mon mari, il a perdu la tête. » Il y a deux phénomènes. Nous avons été pris par la logique humaine. Nous avons été pris par notre intelligence. Mais la Bible dit que Abraham appelle des choses qui n'étaient pas. Il appelle les finances. Il dit, ça va bien. Alors que les choses en réalité vont mal. Lui déclare dans le monde des esprits, par ma foi, Dieu a promis qu'il me bénira financièrement. Alors il s'élève, il commence à remplir des chèques. Il dit, nous allons payer. Nous allons payer. Dieu a dit qu'il va donner de l'argent. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes tous pris dans un grand combat, le combat des langages de la foi. Nous sommes cloués par la logique humaine dans notre vie de tous les jours. Nous parlons des choses telles qu'elles vivent. Oh, les enfants n'écoutent pas. Mes enfants n'écoutent pas. L'atmosphère spirituelle dans ta maison est chargée par les paroles que vous déclarez. Vous déclarez les paroles de mort, vous déclarez les paroles de peur, vous déclarez les paroles d'échec, vous déclarez les paroles de disette, vous déclarez les paroles de malformation. Il est normal que vous traînez dans les mêmes choses. Vous pouvez beau dire, j'ai des promesses, mais l'atmosphère dans laquelle vous vivez est une atmosphère triste. Vous entrez dans certaines maisons, vous respirez la mort. C'est la maison d'un enfant de Dieu. Seigneur, est-ce que tu prends quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mourir dans la maison? Je dis non. Mais c'est les paroles qu'il déclare. Les paroles qu'il déclare. Je pense que je vais faire un accident. Je pense qu'on va saisir cette maison. Je pense que nous ne pouvons pas payer cette maison. Je pense que. Mais qu'est-ce que la foi te dit? Que Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu ouvrira des portes. Dieu essuiera toute larme. Dieu te relèvera. Dieu te donnera des guérisons. Je voudrais vous mettre au défi dans les 5 mois qui viennent. Ne parlez pas des choses telles que vous les voyez, mais déclarez les choses par la foi. Déclarez les choses par la foi. Apprenez à conjuguer les verbes de la foi. Ça vous semble une utopie de dire je l'ai fait il y a quelques mois, je l'ai fait il y a quelques années. Non, nous appartenons au royaume de Dieu. Il y a le langage du royaume. Ce langage du royaume nous pousse à dire, je voudrais que vous travailliez avec votre épouse, vous travailliez avec vos enfants, à veiller sur les paroles que vous dites qui donnent accès à l'ennemi, L'ennemi a eu l'avantage sur vous en vous faisant croire que rien ne marche. Tout ce que tu touches échoue. Tout ce que tu dis ne marche pas. Personne ne t'aime. Et tu es toujours malade. Tu es ceci. Mais la guérison est réelle. Mais j'en rends témoignage. J'ai écouté cette semaine quelqu'un de l'église pour lesquels nous prions avec une situation incurable. Il me téléphone pour me dire, je sors de chez mon médecin. Il m'a dit, dossier fermé. Amen. La guérison est réelle. Elle est réelle. Elle est réelle. Dieu fait toutes ces choses-là, mais elles sont au pouvoir de votre langue. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens, ils ont une mine triste. Quand vous les voyez, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le monde... Vous connaissez les films, les dieux sont tombés sur la terre. C'est comme si les dieux sont tombés sur ses épaules. Dépassé, il vous dit que rien ne marche dans sa vie. Avec Jésus, les choses marchent. Avec Jésus, les choses marchent. Construisez votre avenir avec votre langue. Je touche. Sarah dit, mais où est l'enfant dont tu dis? Il court. Hé, Isaac, apporte-moi le feu. Mais où est Isaac? Mais qu'est-ce que mon mari vit? Mon mari dit, j'ai changé de langage parce que j'ai la promesse. Amen. J'ai changé le langage, j'ai la promesse. J'ai changé le langage, j'ai la promesse. Et la Bible dit, ce que tu déclares, Dieu te le donne. Amen. Ce que tu déclares arrive. Tu es un saint homme de Dieu, une sainte femme de Dieu. Tu es une prophétesse de Dieu. Quand tu t'élèves couverte de l'onction de Dieu, tu déclares des choses dans le monde spirituel et la lumière vient et Dieu opère. Quelqu'un dit Amen. On acclame le Seigneur. Je vais relever un dernier domaine de combat. C'est l'opinion des autres. L'opinion des autres. Nous vivons dans une société où nous sommes liés les uns aux autres et nous vivons même dans l'Église. J'avais appelé ici le prophète Dell. Il venait de New York avec sa femme, je ne m'en souviens plus de son nom. Delmast. Delmast m'appelle, nous sommes sur le parc. Il dit, tu vas écrire des livres devant toute l'Église. Mais, s'il y a des choses que je n'ai jamais pensées dans ma vie, je ne suis pas d'option littéraire. Les livres, non. Quelques temps après, vient Kakou, prophète Kakou. Il arrive dans l'église, il dit, je te vois écrire des livres qui aident beaucoup de jeunes prédicateurs. Je dis, mais arrête-moi cette histoire. 5 ans plus tard, Pasteur Omer est à Salisbury. Il est venu nous visiter. Il me trouve dans mon bureau en dessous. Il me dit, tu as beaucoup de matière ici à produire. Je ne sais même pas pourquoi tu n'écris pas. Il est parti. Mais le temps qu'il arrive, juste au pont sur la 40, quitter la maison, j'avais écrit 2 pages. Et tout est parti comme ça. C'est que 7 ans plus avant, cela était une chose irréalisable, chose impossible dans ma vie, de m'asseoir que j'écris un livre. Ce qui te semble impossible, hier, c'est possible aujourd'hui. Amen. Ce qui te semble irréalisable est réalisable aujourd'hui. Ne dis jamais. Dis tout simplement, je me remets à Dieu. 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 Que l'opinion de tes parents, l'opinion de ton mari, l'opinion de ta femme, l'opinion de tes amis ne tue pas ton avenir. Lorsque la promesse arrive, surtout avec nos sœurs, elles sont excitées. J'ai reçu une promesse. Il arrive à la maison, il trouve le mari assis sur son fauteuil, il est sur son canapé, il regarde la télévision. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec beaucoup de bruit comme ça? Il lui voit les matchs de hockey. Tu es toujours comme ça, folle, avec des histoires de cabouillage, j'ai une promesse. Tu es blessé. L'opinion des autres. Il y a un homme que j'aime dans la Bible, il s'appelle David. David, il est venu sur le front, il n'a jamais fait la guerre. Lorsqu'il voit Goliath, tout Israël battu, l'Esprit lui dit, ce maintenant ou jamais, je te fais propulser dans ton appel. Il y a l'appel de devenir roi d'Israël. Un roi est un général. Prends le commandement des opérations. Il demande encore à Dieu, moi, prendre le commandement. Il dit, je suis avec toi. Jamais un roi n'est général des corps d'armée. Tu es le commandant, prends la direction des opérations. Il s'élève, il appelle Saül. Je dis, c'est quand même là. Il appelle le roi, il dit, et le roi et le peuple, venez, c'est moi qui dirige les opérations. Il y a les onctions qui t'élèvent comme ça. Amen. Tu n'as jamais prêché, entre dans ton appel. Amen. Tu n'es pas prophète, entre dans ton appel. Amen. Donc là, le garçon, il dit, son frère Ricard, il dit, il lui fait, arrête, tu es orgueilleux. Toi, tu appelles le roi, tu n'as jamais fait la guerre. Quitte ici. Il dit, regarde-moi ça. Laisse-moi ça. Le roi lui dit, tu n'as aucune expérience de guerre, mon fils. Arrête. Il parle comme un Africain quand il voit un enfant, c'est toujours un enfant, même quand il a une barbe. Il a chez lui, il paye sa maison, il fait tout, et il les appelle, oh les enfants. Mais les enfants, tu appelles, sont mes enfants ou moi? Je suis messieurs. Mais ce qui arrive, les garçons, le roi lui dit, tu n'as aucune expérience de guerre. Les garçons disent, hé, tu ne sais même pas à qui tu parles. Vous ne savez pas que Dieu m'a élevé, moi. Je viens de loin avec Dieu. J'ai fait l'entraînement avec Dieu. Je suis un homme qualifié pour la guerre. Il convainc le roi. Vous savez, en Israël, celui qui marche devant les troupes, c'est lui le commandant. C'est que Saül reste derrière. Il reste avec le peuple. Les commandants, c'est le jour où le pouvoir lui a échappé. Il y a des choses que tu fais dans le monde visible qui ont l'impact dans le monde spirituel. Quand tu recules, c'est normal que tout recule avec toi. Mais quand tu avances, il y a le vent de Dieu qui entre dans tes voiles, qui entre dans tes voiles et te propulse. Dieu est de ceux qui osent. Dieu est de ceux qui posent des pas. Israël n'a pas vu la mer Rouge se séparer s'il n'a pas posé les pas. Il y a des choses dont tu poses des pas. Je n'ai rien, je pose les pas. Je n'ai rien, je donne une première offrande. Je n'ai rien, je contacte. J'ouvre des portes. Et voilà ce qu'il faut. Le pouvoir a échappé Saül ce jour-là. Le garçon prend le commandement. Le garçon n'a pas l'expérience, mais Dieu honore sa foi. Il y a des choses que tu aurais déjà obtenues si tu avais osé. Si tu avais osé, si tu avais osé. Dieu est un Dieu qu'on provoque. Tu les provoques par des actions que tu mènes. Des actions, même une main que tu fais comme ça, elle a l'impact dans le monde spirituel. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tout ce que nous voyons dans le monde visible a commencé dans le monde spirituel. Et ça prend place. Et le monde spirituel, toi, tu peux y aller. Par ta foi, tu peux aller dans le monde spirituel. Par la foi, tu peux t'asseoir avec les anges. Tu peux t'asseoir avec le Père, avec les fils.